Alors, on le retrouve pour notre plus grand bonheur. Christian Page.
Salut Bernard.
Enquêteur du paranormal.
Je me demandais si t'étais pour sortir un autre prénom, c'est Jean-Paul.
Mais non, Christian. Je viens de parler du grand Antonio, j'aurais pu t'appeler Antonio, là, mais non.
Ouais, non. Grand Antonio du paranormal.
Oui, c'est cela.
Je l'ai croisé, moi, une fois, le grand Antonio. C'était sur dans le bout de la rue Ontario, là, tout près du stade olympique. Et effectivement, comme tu mentionnais, c'était un peu désolant de voir cet homme qui avait tant marqué l'histoire du Québec à une époque, qui était devenu pratiquement un sans-abri, un itinérant. J'ai un petit sentiment quand j'ai croisé le bonhomme en question.
Oui, triste fin. Alors, parle-nous.
Oui,
parle-nous
aujourd'hui,
la chambre d'ambre, je sais.
Je te parle de deux choses, Bernard. Deux histoires qui vont se raccrocher l'une à l'autre. Mais pour les amateurs de trésors, je sais pas si toi tu es de ceux-là, mais moi je suis toujours fasciné par les histoires de trésors volés, dérobés, disparus. Il y a toujours une espèce de fascination. Et quand on parle des grands trésors volés, disparus, l'un d'entre eux dépense presque tous les autres, c'est la chambre d'ambre. C'est un décorum si spectaculaire qu'il fait presque partie d'une légende improbable. Il s'agissait en fait d'un cadeau qui a été offert par le roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier, au tsar Pierre le Grand. Et en fait, il avait proposé de lui décorer une pièce de son palais qui était à Saint-Pétersbourg à ce moment-là. Et c'était son cabinet qu'on avait décoré. Et on l'avait décoré, crois-le ou non, avec des panneaux sculptés dans l'ambre, et on en avait pour 6 tonnes d'ambre. Tu t'imagines un peu le truc en question? Si aujourd'hui ces panneaux-là existaient encore aujourd'hui, parce qu'on les a perdus, mais si les panneaux existaient encore aujourd'hui, la chambre d'ambre serait estimée entre 700 millions et 1 milliard de dollars.
Wow. Donc,
tu vois un peu la
beauté
de la chose.
Alors, rappelle-nous l'ambre.
L'ambre, c'est la sève de la préhistoire, disons ça comme ça. Et donc, la sève, lorsqu'elle s'écoule, elle est liquide. Mais avec le temps, dans le cas, par exemple, de la chambre d'ambre, ben, ce liquide-là s'est durci au fil des millions d'années. Et il devient aussi dur qu'une pierre. Et dans certains cas, ce qui est intéressant de l'ambre, c'est qu'elle a, dans son écoulement, si je puis dire, de l'arbre original, elle a englobé des insectes ou des parties de la préhistoire, un morceau d'écorce, un bout de feuille. Donc, on a, à travers l'ambre, on a la possibilité d'avoir une vision sur des objets qui ont existé dans la préhistoire il y a des millions d'années. D'ailleurs, dans le film Jurassic Park, le sang des premiers dinosaures qu'on va reconstruire, on le tient d'un insecte, d'une espèce de moustique du genre maringouin qui aurait été coincé dans l'ambre il y a des millions d'années. Donc, on en extrait le sang que le maringouin a piqué dinosaure. Oui. Et avec ça, on construit les fameux dinosaures de Jurassic Park. Donc, c'est ça l'ambre. Et à l'époque où la chambre d'ambre avait été construite, certains en parlaient comme étant la 8e merveille du monde. Donc, tu t'imagines l'aspect fabuleux de la chose. Éventuellement, cette chambre d'ambre a quitté le palais de Saint-Pétersbourg, a été transférée et devenue un aspect de décorum dans une pièce du château de Catherine qui se trouve à Tsirkuselo, qui est pas très loin d'ailleurs de Saint-Pétersbourg. Et c'est là, malheureusement, lorsque l'arrivée des troupes en 1941, des troupes hitlériennes sont arrivées à la frontière russe, ils ont rapidement envahi le sud. Et les troupes soviétiques, qui se trouvaient à ce moment-là à Tsirkuselo, ont essayé de dissimuler la chambre d'ambre derrière du papier peint, mais ça n'a pas fonctionné. Tu comprends, lorsque l'armée hitlérienne est rentrée dans Tsirkuselo, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'envahir le palais de Tsirkuselo. Tout le monde connaissait l'existence de la chambre d'ambre, et le papier peint n'a pas tenu très longtemps. On a vite découvert l'endroit. On a démantelé les fameux panneaux en question. Lesquels panneaux ont été envoyés à Königsberg, qui se trouve sur un port de mer en Pologne. Et à partir de là, on perd sa trace. L'un des plus fabuleux trésors de l'histoire vient de disparaître.
Wow.
Et là, on arrive avec notre histoire d'aujourd'hui. Donc, l'affaire remonte à l'an dernier. Il y a des plongeurs polonais qui s'appellent Baltitech Diving, qui eux racontent l'an dernier avoir découvert l'épave d'un bateau qui s'appelle le Karlsruhe. Le Karlsruhe est un bateau pas tout à fait comme les autres. Hein. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et là, je sais, tu dis, mais où est le lien? Mais il arrive, le lien, crois-moi.
Oui,
à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les troupes de Lénine commençaient à envahir la partie de la Prusse de l'Ouest était tombée aux mains des nazis, en fait, des armées hitlériennes. Et là, on a compris qu'il fallait vite débarrasser le terrain. Donc, on a mobilisé plusieurs bateaux, des trains pour pouvoir transporter non seulement des biens à la fois civils et militaires, mais également évacuer des réfugiés, parce que comme c'était devenu un territoire allemand, c'était des citoyens allemands qui se trouvaient là. Et l'un des bateaux qu'on a mobilisé pour ce transfert-là, dans une opération extraordinaire qui s'est appelée l'opération Hannibal, on a transporté des gens sur ces bateaux et on les a ramenés en Allemagne. Et l'un d'entre eux, le Karls Rouscher, pour une raison inconnue, au moment où il va quitter le port de Königsbourg, il est protégé par deux navires qui sont des bateaux anti-mines. Pourquoi un tel privilège pour ce navire-là, alors que des dizaines d'autres bateaux ont quitté le port de Königsbourg sans aucune escorte? Et là, voilà que celui-là quitte le port avec une escorte, 1083 passagers. Il quitte le port le 12 avril 1945 et le lendemain, les armées britanniques vont le couler. On est le 13 avril, le navire va sombrer. On va connaître, il n'y aura à ce moment-là que 113 survivants sur les 1083 passagers du navire. Mais pourquoi le bateau était-il entouré de ses navires escorteurs? Et Königsbourg, rappelle-toi, est le dernier endroit où, sur les registres, la chambre d'ambre a été transportée. Alors, l'imagination s'enflamme. Le Karls Rouscher avait été utilisé pour transporter la chambre d'ambre. Ça l'expliquerait la raison pourquoi on a utilisé des navires escorteurs anti-mines. Ouais. Alors, évidemment, le rêve est là. Les plongeurs vont d'abord cartographier l'épave, et puis ils ont passé les derniers jours, les dernières semaines à explorer l'épave. Et il y a deux jours, ils ont fait une conférence de presse, et à la grande déception de tout le monde, non, la chambre d'ambre n'était pas sur le Karls Rouscher. C'était pourtant leur dernier espoir, hein. Si les Allemands avaient la chambre d'ambre toujours à Karlsberg, au moment où les troupes de Lénine les ont forcés à quitter le pays, leur dernier espoir était d'utiliser le Karls Rouscher. Alors, tu comprends que...
On n'a aucune idée où se retrouve cette chambre d'ambre. Soit dit en passant, j'ai des auditeurs, Marie-Claude, qui me dit qu'il y a un musée de l'ambre appelé Ambre à Puerto Plata en République dominicaine. Et j'ai quelqu'un d'autre qui me dit, la République dominicaine, c'est en République dominicaine que se trouve la plus grosse mine d'ambre.
Alors, absolument. Tu savais, et ce musée d'ambre, et ce musée d'ambre que j'ai visité, il y a plusieurs pièces d'ambre qui nous montrent justement des moustiques de la préhistoire qui ont été conservés dans l'ambre lorsqu'elle s'est écoulée, là, originalement.
Donc c'est une espèce de roche, c'est ça? Ça ressemble à de la roche?
Oui, ça devient de la roche. Avec le temps, avec les millions d'années, ça s'est fossilisé, c'est devenu de la roche.
Alors, on n'a aucune idée où se trouve... C'était le dernier espoir, tu l'as dit. Donc, on n'a aucune idée.
Aucune idée. En 2003, le palais de Tsirkuselo, là, tout près de Saint-Pétersbourg, qui est devenu, durant la guerre, Leningrad et ensuite redevenu Saint-Pétersbourg. Donc, ce palais de Tsirkuselo, en 2003, a inauguré une nouvelle chambre d'ambre, a reproduite à l'exact de l'original. Mais, tu comprends, mais où est l'original? Elle continue de faire fantasmer des gens parce que on parle ici de plusieurs panneaux, une vingtaine de panneaux d'ambre, comme je l'ai mentionné, d'une valeur de 700 à 1 milliard de dollars, 700 millions à 1 milliard de dollars.
J'espère qu'on va le retrouver à un moment donné.
Et oui, bien sûr, parce qu'en même temps, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de patrimoine.
Ben oui.
Un des plus grands œuvres jamais données à un tsar de Russie,
voilà,
a soudainement disparu durant le régime hitlérien.
Patrimoine de l'humanité. Christian Page, je te remercie.
Merci.
Le match de Leila Fernandez ce soir, demi-finale, Flushing Meadows, on manque pas ça. Il y a le débat en anglais également et Richard qui m'écrit, il conduisait l'autobus 15 puis le Grand Tonio l'a tiré.